La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Mr. Churchill, scene 2, take 1.
Dans quelques heures, le débarquement. Par Sophie Doudet, professeure de culture générale à Sciences Po Aix. Au matin du 6 juin 1944, 160 000 hommes et 20 000 véhicules débarquent sur les plages de Normandie. Récit de cet événement libérateur à la manière de Winston Churchill. Immense homme politique du XXe siècle, Winston Churchill, né en 1874 et mort en 1965, en est également le passionnant historien. Son œuvre, composée notamment de souvenirs de jeunesse et de grands reportages, est surtout connue pour le vaste panorama des deux guerres mondiales, qui vaut à son auteur de recevoir le prix Nobel de littérature en 1953. Le récit du débarquement en Normandie a donc déjà été rédigé par le Premier ministre britannique lui-même. Le lecteur pourra le retrouver dans le tome 2 de ses Mémoires de guerre de 1941 à 1945, édité et annoté par l'historien François Kersaudy et paru chez Talendier en 2010. Si ce monument littéraire est écrit à la première personne, il se veut essentiellement une somme documentaire objective. Il peut alors être intéressant de se prêter au jeu d'une réécriture plus subjective, selon le point de vue intime de celui que le général de Gaulle qualifiait de grand artiste d'une grande histoire. Nuit du 5 au 6 juin 1944. Cette nuit encore, je ne dormirai pas. Le train que j'ai tout spécialement fait aménager pour être au plus près du théâtre des opérations est de toute façon trop inconfortable pour s'abandonner au sommeil. Nous sommes en gare de Portsmouth. Pas moyen d'aller plus loin et j'enrage. Tu te rends compte que lorsque tu te réveilleras demain matin, 20 000 hommes auront été tués ? Ai-je crié à ma femme Clémy. J'aimerais tant pouvoir faire plus, mais Sa Majesté le roi George VI a insisté pour que je ne risque pas ma vie au milieu des soldats à humer le délicieux et terrible fumet de la guerre. Coincé entre ma baignoire, qui m'a toujours suivi même sur le front français en 1915, mes cartes militaires étalées sur mon bureau et le téléphone qui me relie au monde, mais avec toujours du champagne à portée de main, nécessaire dans la victoire et indispensable dans la défaite, je refais une nouvelle fois le point à la veille de la plus grande opération amphibie de l'histoire. Ai-je tout prévu ? Si toute ma vie m'a démontré qu'on ne pouvait rien faire contre le hasard, qu'on le nomme fortune ou providence et qu'il m'a bien souvent été favorable, je veux aujourd'hui donner à l'histoire la marque de la volonté des hommes. Il nous faut vaincre. Le passé éclaire l'avenir. Overlord. C'est le nom de cette immense opération militaire qu'il m'est revenu de mettre en œuvre. Le projet est ancien. Déjà, début 1943 à Casablanca, le président Roosevelt avait vivement souhaité ouvrir un front en Normandie qui aurait soulagé la Russie et libéré la France, tout en offrant une victoire aux troupes américaines malmenées en Asie. À Moscou, Staline insistait plus encore et se montrait presque insultant en m'accusant de lâcheté là où je n'étais que prudent. Et il faut l'avouer, méfiant. C'est que je sais ce qu'ils ignorent ou feignent d'oublier. Le souvenir de l'échec militaire des Dardanelles en 1915-1916 m'est encore cuisant et m'a beaucoup appris. Les opérations combinant attaques terrestres et maritimes sont extrêmement difficiles à mener. Il faut parfaitement coordonner les troupes, tenir compte des variations de la météo et des marées, et ne pas sous-estimer la puissance adverse qui hérisse les côtes de forts armées et piège les eaux de mines. Gallipoli, Anvers, Dunkerque, Narvik. Mes expériences, certes différentes chacune, ne sont pas en la matière encourageantes. Et ici, Ce sont Rommel et le mur de l'Atlantique qui nous attendent. La passion ne fait peut-être pas tout, et l'effroyable prix en vies humaines qu'ont coûté les grandes offensives de la Première Guerre mondiale reste gravé dans ma mémoire.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Céder devant l'Américain et le Russe. À mes réticences s'ajoutait alors le fait que je n'étais pas convaincu que ce fût l'unique moyen de la guerre. Jusqu'à la rencontre entre les deux grands, Roosevelt et Staline, à Téhéran en décembre 1943, j'ai défendu obstinément ma stratégie en retardant le plus possible l'opération. Avancer en Méditerranée me semblait plus judicieux. Nos bases y étaient plus solides et je pensais déjà à l'avenir sombre qui se profile désormais. Occuper les Balkans permettrait d'empêcher notre vorace allié russe de s'y tailler la part du lion et conserverait dans la région et dans l'Europe d'après-guerre l'équilibre des puissances qui n'a jamais cessé d'être mon objectif. Mais hélas, à Téhéran, le pouvoir a changé de main. Roosevelt, qui rencontrait pour la première fois Staline, s'est fort bien entendu avec lui, n'a semblé s'intéresser qu'à son aide sur le front asiatique. Il a ignoré mes avertissements. C'est à Téhéran que, pour la première fois, je me suis rendu compte quelle petite nation nous étions. J'étais là, assis, avec le grand ours russe à ma gauche, ses pattes étirées, et à ma droite, le gros buffle américain. Entre les deux, se tenait le pauvre petit bourricot anglais, qui était le seul des trois, à connaître le bon chemin. Trop souvent, il a fallu me taire et finalement céder. Overlord a été prévu pour le mois de mai, complété par le débarquement en Provence. De retour, j'avoue que j'étais horrifié par ma propre impuissance. Il ne restera rien de l'Europe et j'en serai tenu pour responsable. Mais l'action a toujours été mon exutoire. Je me suis donc consacré corps et âme, nuit et jour, à l'organisation du débarquement. À mon habitude, j'étais de tous les fronts à superviser tout ce qui était possible de l'être. J'ai bien senti parfois que le général Eisenhower, commandant suprême de l'opération, et Montgomery, le héros de la bataille d'El Alamein, qui aura en charge l'assaut, étaient agacés par mes questions, mes contestations stratégiques et peut-être mes doutes. Mais qu'importe, je suis sûr à présent qu'ils vont vaincre et que nous avons mis toutes les chances de notre côté. Le leurre d'un débarquement dans le Nord. La mobilisation des hommes et des forces a été gigantesque. Il a fallu rapatrier des troupes d'Asie et de Méditerranée, quitte à mettre en péril le front en Italie, pour constituer une armée de 2 millions de soldats. Il a fallu renforcer notre supériorité aérienne pour pouvoir larguer des troupes à l'arrière des côtes normandes et détruire les voies de communication. J'ai également imaginé des ponts flottants, les Mulberries, dont je suis très fier, qui vont transporter les millions de tonnes de matériel. Mais nous avons aussi fait du sud de l'Angleterre une immense base militaire, 8 divisions, près de 5000 navires. Et cela dans un espace très réduit et surtout dans le plus grand secret. Car en plus de préparer le vrai débarquement, il a fallu fabriquer un incroyable leurre pour conserver tout l'effet de surprise. Nous voulions en effet faire croire que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Nous avons donc laissé voir une fausse activité militaire en simulant une concentration de fausses troupes dans le Kent et le Sussex, en construisant des navires factices, en effectuant de faux exercices et en intensifiant les vols de reconnaissance sur la fausse zone de débarquement, tout en nous informant sur les véritables lieux et la topographie des plages de Normandie. Aux questions purement matérielles et stratégiques s'est ajouté un épineux problème diplomatique qui n'a pas été le moindre de tous ceux que j'ai eu à affronter. Que faire, en effet, des forces françaises et de leur désormais embarrassant et ombrageux chef, sachant que le président Roosevelt est encore à ce jour hostile au général de Gaulle et ignore, maladroitement oserais-je le dire, l'appui que le français a dans nos opinions publiques. Si nous ne souhaitons pas encore le reconnaître comme le représentant de la France, il faut avouer qu'il l'est, de fait. Comment dès lors ne pas l'informer du débarquement, au moins la veille, et plus encore l'associer? J'ai tenu au moins à ce que le général Leclerc et sa division participent à l'entreprise, et j'ai obtenu qu'il soit rapatrié d'Afrique du Nord et associé aux troupes. Mais que de difficultés, que de disputes pour obtenir le soutien officiel du général français qui s'obstine à voir dans Overlord une opération d'occupation et non de libération. Je sens bien que je n'en ai pas encore fini avec lui. Le verbe comme alternative à l'action. Enfin, après bien des hésitations et un suspense météorologique insoutenable, l'opération qui avait déjà été repoussée au 5 juin a été finalement fixée au 6 juin au matin. Toute la journée du 4, le destin de l'Europe a dépendu des marées et du ciel de tempête qui menaçait de tout reporter à 15 jours plus tard. Dans la nuit du 4 au 5, la décision a enfin été prise d'agir le 6, car une accalmie est prévue. La récente nouvelle de la prise de Rome par les Alliés me semble de plus de bon augure. Et maintenant, j'attends. Jour J, heure H. Tout a dépendu de moi et je ne peux rien faire. Hier, j'ai passé en revue les troupes et à présent, me voici de nouveau impuissant, à regarder le ciel et à craindre le vent. Tout ce que j'ai toujours détesté. Là-bas, l'immense armada appareille, les bombardiers de la RAF attaquent les côtes, suivis de l'aviation américaine. Trois divisions sont parachutées, les fantassins prennent pied sur le rivage. La réalité vaut mieux que les rêves. Ne pouvant me battre, je rentre à Londres pour y agir autrement. Les mots changent aussi le monde et modèlent les rêves des hommes. Je vais aller à la Chambre des communes et parler une fois de plus à la nation. J'imagine déjà mon discours. Je dois annoncer à la Chambre que la première série des débarquements en force sur le continent européen a commencé au cours de la nuit et des premières heures de la matinée. Jusqu'ici, les commandements des unités engagées signale que tout se déroule conformément au plan. Et quel plan ? Cette immense opération est incontestablement la plus complexe. Ensuite, j'écrirai. Et puis, la guerre n'est pas finie.
Par Sophie Doudet, professeure de culture générale à Sciences Po Aix, auteur de Churchill, paru chez Gallimard dans la collection Folio Biographie en 2013.
Retrouvez tous nos podcasts sur notre site serious.audio.